France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, effectivement, en public à la Grande Halle de la Villette, dans le cadre de Musicora, un salon qui s'intéresse cette année à la guitare et à l'accordéon, ça tombe bien. Puisque nous danserons tout à l'heure avec l'accordéon des papillons de nuit qui font revivre le style des bals d'avant-guerre. Mais nous parlerons également des yéyés avec l'écrivain Gérard de Cortance qui publie son dictionnaire amoureux des 60s. Et pour commencer, place à la guitare et aux guitaristes ici présents autour de Jean-Félix Lalanne avec leur instrument qui est bien plus qu'un instrument, comme nous l'explique cette petite chanson.
Ma guitare et moi, nous ne nous quittons pas. Qui joue de l'autre, personne ne le dira. Quand je l'ai rencontrée couverte de poussière, elle se morfondait chez un antiquaire. Et je n'ai pas pu résister à ses cordes cassées, sa peinture écaillée. Et partant tous les deux, le vieux n'a pas compris qu'elle était déjà ma guitare, mon ami. On ne peut pas contenter tout le monde et son père être au four, au moulin ou avoir quatre mains. On peut aimer les bêtes, la nature, les humains, sans être poète, encore moins musicien. Mais c'est bien agréable de pouvoir l'exprimer sans en être capable, grâce à elle, car elle sait. Ma guitare et moi, nous ne nous quittons pas. Qui joue de l'autre, personne ne le dira. Quand je l'ai rencontrée couverte de poussière, elle se morfondait chez un antiquaire. Et je n'ai pas pu résister à ses cordes cassées, sa peinture écaillée. Et partant tous les deux, le vieux n'a pas compris qu'elle était déjà Aglaé, mon ami.
Ma guitare et moi par Stéphane Goldman en 1964, à l'époque où la guitare était l'ami, comme il le dit, indispensable de tous les chanteurs. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça aujourd'hui, mais je pense qu'on va en parler avec nos invités, puisque j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui quatre guitaristes extraordinaires autour de Jean-Félix Lalanne, invité d'honneur de Musicora. Et on va commencer d'ailleurs tout de suite en musique avec Jean-Félix Lalanne et Éric Gombard dans Funky Blues. Funky Blues, joué par Jean-Félix Lalanne et Éric Gombard au Salon Musicora à la Grande Halle de la Villette où vous êtes déjà nombreux, mais vous êtes toujours évidemment bienvenus. Bonjour Jean-Félix Lalanne.
Bonjour, bonjour Benoît.
Vous êtes avec Richard Galliano, un des invités d'honneur de ce Salon Musicora. Et avec vous, c'est la guitare qui est à l'honneur. J'imagine que vous prenez ça comme ça.
Oui, un petit peu moins que l'accordéon, effectivement. Oui, c'est la guitare qui est à l'honneur. La guitare et les guitaristes et les luthiers aussi, puisqu'on a des magnifiques luthiers en France. Et on va en parler, mais on est là vraiment pour mettre aussi un focus sur le travail que font les luthiers en France.
Voilà, et on est un bon pays de luthiers pour la guitare.
On est un très très bon pays. Pour moi, ce sont vraiment des artistes, des artisans au sens noble du terme. Et puis la guitare, c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est un instrument, on pourrait dire que c'est un instrument limité par rapport au piano, mais c'est un instrument qui a toujours repoussé à la fois l'imaginaire des guitaristes et des luthiers. C'est-à-dire que les luthiers continuent à chercher, alors qu'évidemment il y a une tradition au niveau de la lutherie qui est évidemment très 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 ancienne. Ouais. Et les luthiers continuent à évoluer et à rechercher en fonction du besoin des guitaristes. Donc on essaie justement de travailler de manière parallèle pour à chaque fois repousser les limites de tout ça.
Le morceau que vous venez de jouer, ça s'appelait Funky Blues. Oui. Vous nous en dites un petit mot en plus de cette composition?
Alors, c'est un morceau d'Éric Gombard avec qui je...
Voilà, bonjour Éric.
Bonjour, bonjour.
Toi, tu vas peut-être en parler. On vient de sortir un album, un CD, on dit même plus un album maintenant.
Voilà, c'est ça. Et ce morceau est dans l'album. Donc, on s'est dit qu'on allait prendre plaisir à le jouer. C'est un morceau à l'origine pédagogique qui est devenu un morceau qu'on joue sur scène avec Jean-Félix.
Voilà. Alors, je me demandais... D'ailleurs, la guitare, quand on y pense, tout de suite, on voit des mondes très, très différents les uns des autres. Il y a le monde de la guitare classique, le monde de la guitare funky, le monde de la guitare des chanteurs, le monde de la guitare contemporaine, etc. Et est-ce que ces mondes de la guitare sont très, très séparés, très cloisonnés, ou tout ça se croise, Jean-Félix Lalanne ?
Alors, c'est un très, très beau lancement pour justement rappeler un spectacle que j'ai créé, que je continue à jouer de temps en temps, qui s'appelle « Autour de la guitare ».
Oui.
Et c'est parfaitement résumé par ce que vous dites, c'est-à-dire que la guitare, encore une fois, qui est un instrument finalement assez limité, c'est un instrument qui est jeune, adolescent, et il y a énormément de styles de guitare différents. On parle de la guitare flamenca, de la guitare manouche, de la guitare tapping, de la guitare métal, on parle pas de piano métal, de piano manouche, Ouais, je ne sais rien par rapport au piano, mais c'est vrai que c'est un instrument qui a suscité comme ça des mondes très très différents à la fois techniques et musicaux.
Et l'instrument le plus populaire. Vous baladez à travers tout ça.
Moi, j'essaye de m'amuser à travers tout ça, mais surtout le concept d'autour de la guitare, c'est exactement ce principe-là, c'est de réunir tous les guitaristes, toutes les techniques de jeu différentes,
tous les styles,
et y compris les chanteurs, puisque finalement la guitare d'accompagnement est aussi quelque chose qui est très à l'honneur.
Il faut dire d'ailleurs que vous avez récemment sorti un disque avec tous vos amis chanteurs, hein,
oui.
Serge Lama et quantité d'autres qui sont là pour dialoguer avec vous en voix et en guitare.
Absolument. Oui.
En même temps, je posais la question tout à l'heure parce que on va parler des années 60 tout à l'heure avec Gérard de Cortance, mais c'était vraiment l'époque des chanteurs à guitare. Ce côté-là, il a pas mal décliné, non, finalement, le chanteur à guitare, qu'on voit moins aujourd'hui.
Oh, c'est des cycles, c'est des modes. Il y a dans les réalisations pop, il y a encore d'ailleurs une période un petit peu minimaliste où on entend justement des guitares acoustiques avec des réalisations très très sobres derrière. Alors évidemment, on a l'image dans les années 60 de la guitare un petit peu rockabilly, rock'n'roll, etc. Donc c'est pas cette image-là qui est passée, c'est, on va dire, c'est ce style-là qui est un petit peu passé par rapport aux années 60. Mais la guitare, ça reste quand même, avec le piano, justement, les deux instruments privilégiés pour les chanteurs, pour s'accompagner, parce qu'on peut facilement avoir un accompagnement polyphonique avec une guitare, donc assez riche harmoniquement, et en même temps la balader assez facilement un peu partout.
Alors, quand je regardais vos histoires aux uns et aux autres qui êtes là avec nous ce matin, et à commencer par vous deux, Jean-Félix Lalanne et Éric Gombard, il y a un nom qui s'est imposé tout de suite, c'est Marcel Dadi. Ça reste la référence pour vous tous,
en fait,
Éric Gombard.
Moi j'ai commencé la guitare en écoutant Marcel Dadi, essayant de relever les notes que j'entendais, avec mes oreilles. Et puis, fatalement, sur ces premiers albums que j'ai découverts de guitare, j'ai entendu parler de Jean-Félix Lalanne, puisque il y a eu un duo célèbre, Jean-Félix Marcel, Donc c'est vrai que Marcel Dadi est le point commun entre Jean-Félix et moi, c'est vraiment notre base de lancement. même si on a évolué chacun de notre côté dans nos styles différents, mais finalement depuis les quelques mois où on travaille pendant lesquels on travaille depuis qu'on travaille ensemble, on retrouve cette source dans notre dans notre façon de jouer, dans notre façon de d'entreprendre les morceaux.
Picking guitare, c'est ça?
Voilà, c'est à l'origine c'est une technique de picking hein, ouais. qu'on joue avec un onglet plutôt très réglementé. Maintenant nous on a un petit côté, on a développé un peu tout ça avec Jean-Félix. On a plus 20 ans donc on a un petit côté, on amène le petit côté un peu sauvage, le petit côté improvisation dans ce style.
Alors on va le retrouver tout de suite, Marcel Dadi dans Song for Cathy. Marcel Dadi, Song for Cathy. Je ne peux pas écouter ça sans me rappeler mes années de lycée. Un de mes camarades qui était un fan de Dadi, il avait tous les disques, la guitare à Dadi, avec des merveilleux dessins de Gottlieb sur la couverture. Peut-être comme ça que vous l'avez vu la première fois, vous aussi, Jean-Félix Cavan.
C'est vrai qu'en quelques mots, Marcel, au-delà de sa technique qu'il a, entre guillemets, importée, on va dire, en France, cette technique de picking, il a surtout amené un état d'esprit. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 70, il y avait deux catégories de guitaristes. Il y avait soit les guitaristes classiques qui créaient un véritable fossé entre eux et le public à qui ils daignaient amener la bonne parole. Il y avait un côté un peu...
Les mondes de la guitare, comme je disais tout
à l'heure. Qui n'est plus du tout comme ça, heureusement. Ouais. Et il y avait les guitaristes électriques, enfin rock'n'roll, qui avaient tendance à tourner le dos pour éviter qu'on leur pique les plans.
Ouais.
C'est, mais c'est exactement ça. Et Marcel est arrivé, non seulement il a dit voilà, bah, je joue de cette manière-là, mais en plus je mets ce qu'on appelle les tablatures, ce qui fait que si vous voulez jouer comme moi, il suffit de travailler, je vous donne tous les moyens de le faire.
D'où ce succès chez les ados que nous étions avec des guitares et qui voulaient jouer peut-être pas comme Dadi, mais oui.
Non, je dis, et puis comme Marcel, comme Marcel aimait tellement de styles et avait plein de copains dans tous les styles, il a su les réunir au bon moment pour n'en faire qu'une seule famille.
Alors, comme vous avez enregistré avec lui à plusieurs reprises, Jean-Félix Lalanne, là, je vous demandais, vous êtes avec lui là parce que j'avais l'impression qu'il y avait deux guitaristes, mais en fait non, il était tout seul.
En fait, j'oublie que c'est à la fin, je rentre, parce que c'est une version à deux guitares, mais au départ c'est une version solo. Et effectivement, le principe du picking, c'est un peu comme le piano ragtime, c'est-à-dire le pouce fait ce que la main gauche du piano fait au niveau des basses. Et le reste des doigts fait la mélodie. Et c'est vrai que quand on entend un guitariste jouer du picking, si on le voit pas jouer, on pense qu'il y a effectivement quelqu'un qui fait une basse et l'autre qui fait la mélodie. Donc c'est très pratique, surtout par les temps de crise qu'on vit actuellement. C'est très économique comme système.
Éric Gombard, c'est grâce à Dadi que vous êtes passé de l'accordéon à la guitare?
Moi, c'est un peu particulier. Quand j'étais tout petit, on m'a mis un accordéon sur les genoux et puis je me suis débrouillé tout seul pour apprendre l'accordéon. Ce qui fait que quand j'ai eu ma première guitare aux alentours de 13 ans, je connaissais déjà un peu les accords, l'harmonie, voilà. Donc, puisque j'avais déjà ça dans les oreilles de par l'accordéon. Maintenant, c'est vrai que j'ai tout de suite été dans la direction du picking de la musique américaine, oui, de Marcel Dadi, mais bon, pas que, parce que au travers des disques de Marcel, en tout cas pas le premier, mais les suivants, j'ai découvert plein de musiciens, c'était des morceaux que reprenait Marcel, de plein de musiciens américains.
Notamment américains.
Voilà, que j'admire encore aujourd'hui, oui.
Alors, il faut rappeler, malheureusement, puisqu'on parle de l'Amérique, hein, que c'est en quittant New York par un vol en 1989 que Marcel Dadi a été victime, comme tous les passagers du vol.
C'était en 96.
96, pardon. Ouais. A été, oui, c'est le disque qu'on vient d'entendre qui était de 80.
Voilà,
oui,
tout à fait, ouais.
Qu'il a été donc victime de ce crash aérien.
Exactement, alors ça nous a tous fait un gros coup. On a tous été très malheureux. Bon, maintenant, à chaque fois qu'on se réunit, de toute façon, il est dans nos têtes et on en parle. Moi, j'en parle à chacun de mes concerts.
Alors, on va retrouver maintenant toujours Jean-Félix Lalanne en duo avec un autre de ses complices guitaristes, Jean-Marie Ekaï, et ils vont nous jouer Bras dessus, bras dessous, une chanson qui a, je crois, quelques rapports avec notre regretté Claude Nougaro. Jean-Marie Ekaï viendra nous l'expliquer tout de suite après.
Thank you.
Bras dessus, bras dessous, c'était Jean-Félix Lalanne avec Jean-Marie et Kai qui vont tout de suite nous rejoindre tous les deux au micro puisque nous sommes toujours en direct de Musicora où on pourra d'ailleurs entendre beaucoup de guitaristes, hein, je crois cet après-midi à 18h à l'auditorium Boris Vian.
Hein, Jean-Félix Lalanne. Oui, oui.
Grand concert de guitare.
Grand concert, il y aura Jean-Marie et Kai, il y aura Eric Gombard, il y aura Michel Aumont, on va parler tout à l'heure, il y aura Sylvestre Plancher, Samuel Ito, enfin voilà.
Voilà.
Il faut aimer la guitare.
Je citais le nom de Claude Nougaro, Jean-Marie Ecaille, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été proche de Claude Nougaro, vous avez travaillé ensemble.
Oui, j'ai travaillé pendant 6 ans avec lui.
Ouais.
Et donc, en fait, ce morceau, Bras dessus, c'est un morceau que j'ai composé pour Claude.
Et on entend l'accent, donc déjà qu'on
vous dit. Oui, déjà. Claude, moi, hein. Bon, lui, c'est Toulouse, moi, c'est Pays Basque, voilà. Ah, bon, mais, voilà. Mais enfin, on est du Sud, ouais. Donc, en fait, moi, j'avais d'abord fait la musique, et lui, il a posé des paroles dessus, voilà. Voilà, voilà. Comment ça s'est passé.
C'était quelqu'un qui s'intéressait aux musiciens, aux instruments, à la guitare en particulier, Claude Nougaro, dans son travail de chanteur.
Oui, toujours depuis très, très, très jeune, déjà de par sa famille. Sa mère était pianiste, et son père chantait aussi. Et lui, très jeune, au début des années 60, il était très copain avec Michel Legrand.
Oui.
Lui faisait des textes, Michel faisait la musique. Et c'est un peu Michel qui lui a dit « Mais tu devrais chanter plutôt que de proposer tes textes aux autres ». Et donc, très très jeune, il a rencontré plein de fantastiques musiciens. Et c'est un des innovateurs, je dirais, dans la musique presque variété, on pourrait dire, en France.
Bernard Luba, Eddy Louis.
Oui, il y a des disques fantastiques, Paris Mai, tout ça. Les orchestrations sont... World Music avant l'heure, enfin, il y avait un mélange de jazz, de africain, de funk, enfin, c'était incroyable, ce musicien.
Alors voilà encore, je parlais des mondes de la guitare, vous êtes finalement de représentants de parcours très différents, parce que vous, Jean-Félix Lalanne, vous avez quand même une formation classique poussée, vous-même, Jean-Marie Ecaille, vous êtes plutôt, on peut dire, autodidacte, le mot vous convient ?
Le mot me convient très bien.
Voilà, ça veut dire que vous êtes passé par les expériences avec des musiciens de rock, de jazz,
c'est-à-dire
de chansons.
J'ai quand même fait un petit cursus rapide de quelques années au conservatoire, mais comme il n'y avait pas de guitare classique à l'époque, j'avais pris quelques cours avec un prof, on faisait des genres de jeux interdits améliorés, mais c'était pas quand même des vrais cours de classique. Après, j'en ai pris quelques-uns par la suite, mais bon, je me considère vraiment autodidacte et j'ai vraiment appris très très jeune en jouant dans des orchestres dans la région d'où je viens où il y avait des fantastiques musiciens. Toujours aujourd'hui d'ailleurs, notamment mon camarade Sylvain Luc, on a grandi ensemble, donc on avait des super musiciens, on écoutait des disques et on s'est fait un peu tout seul comme ça, en écoutant, en relevant, voilà.
Bah ouais. Je vous interdis, c'était le truc un peu effrayant au bout d'un moment, non ? On entendait partout.
Oui, c'est
Jean-Félix Lalanne.
Il y a Je vous interdis dans le classique et Stairway to Heaven dans
Ah oui, Stairway to Heaven, j'avais oublié. Oui.
C'est les deux morceaux qu'on a un peu de mal à écouter maintenant, même s'ils sont très beaux, hein, ça n'empêche rien.
Vous, non seulement vous avez une formation classique, Jean-Félix Lalanne, mais vous êtes carrément un compositeur. Y compris symphonique. Hein. La guitare vous a ouvert le monde tout entier de la musique.
Oui, c'est-à-dire, moi, la guitare, c'est ce que je dis toujours, c'est l'instrument qui me permet de faire de la musique en temps réel. Ouais. Et c'est un outil qui me sert à composer. Effectivement, j'adore la composition et j'adore écrire pour des instruments qui ne sont pas le mien. Parce que du coup, je peux encore plus fantasmer et finalement entendre des musiciens jouer la musique que j'écris sans avoir à travailler cet instrument. Mais c'est vrai que par rapport à Jean-Marie, Jean-Marie, il le sait, c'est un guitariste que j'admire énormément. Mais il y a quelque chose qui nous lie, même si le parcours est très différent, c'est la curiosité.
Ouais.
Moi, j'ai un parcours très classique. Donc on en parlait hier justement à déjeuner. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus évolué dans la composition, dans l'étude vraiment de la guitare, le choix des timbres. Mais les doigtés que je choisis dans mes morceaux sont très importants. Et j'ai vraiment fait une recherche par rapport à ça. Et finalement, beaucoup moins dans l'improvisation. Et Jean-Marie, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'il compose, il est beaucoup plus dans l'improvisation. Et c'est vraiment cette curiosité-là qui nous unit. C'est-à-dire qu'à nos âges, forcément, on joue comme on est, heureusement. Donc forcément, il y a une identité qui est là. Mais l'identité, elle reste quand même curieuse et ouverte à tout ce qu'on peut encore apprendre et digérer pour être, toujours évoluer le plus possible.
Alors, je vais demander à Michel Aumont, le quatrième de la bande, si j'ose dire, de nous rejoindre, parce qu'on va dire quelques mots avec lui avant de vous écouter tous les quatre. Mais d'abord, j'ai sorti de la discothèque une petite chose amusante. C'est Bobby Lapointe qui nous parle de la guitare.
Super.
Ceci est une guitare. je ne joue pas de la guitare classique, je ne joue pas du flamenco, je joue de la guitare sommaire. Je suis professeur de guitare sommaire. Je ne suis pas ici pour vous distraire, mais pour instruire. Maintenant, s'il y en a que ça amuse de rire, je peux aussi distraire. Je peux instruire en 10-13 ans, 13 ans et demi maximum. Après, je prends ma retraite. Petit cours de guitare sommaire. Une guitare est un instrument en forme de guitare qui comporte 6 cordes. Si l'on partage la guitare en deux par le milieu, ce qui n'est pas à conseiller, on obtient 2 moitiés de guitare. Et 3 cordes d'un côté, 3 cordes de l'autre. Ces 3 cordes du haut s'appellent par conséquent les basses. En guitare classique, en guitare sommaire, on ne les appelle pas, on les ignore. La grosse difficulté de la guitare sommaire est d'éviter de toucher à ces cordes du haut qu'on appelle les basses. Pour ce, ne tripotons pas la guitare avec tous les doigts. Servons-nous uniquement du pouce. Comme son nom l'indique, pouce, ça ne compte pas. Pouce, c'est pour rire. Ha ha, ha ha. Assez ri, première leçon. Les deux accords. En guitare sommaire, nous avons 2 accords. C'est beaucoup, ce n'est pas trop. Pour effectuer ces 2 accords, nous avons une main gauche avec un pouce qui ne compte pas. Ha ha. Et un index. Avec l'index, nous viendrons appuyer sur les cordes à proximité, c'est-à-dire pas trop loin, soit sur cette corde si que nous appellerons donc la corde si, soit sur cette corde la que nous appellerons donc la corde mi. Et nous obtiendrons les 2 accords suivants, bling et blang. C'est très facile. Bling, c'est facile, mais il ne faut pas toucher la corde à côté. Bling et blang, comme j'ai montré tout à l'heure. Exercice pour la prochaine fois, sur un cahier propre, 10 lignes de bling, 10 lignes de blanc. Pour illustrer cette première leçon, je vais vous chanter quelques chansons, accompagnées au piano par Oswald Andrea.
Oswald Andrea, qui était le fidèle musicien de Bobby Lapointe. Vous connaissiez, Jean-Félix
Lalanne? Ah oui, la guitare sommaire.
La guitare sommaire. Ah bon, c'est un classique pour les guitaristes.
Oui, c'est un classique. C'est vrai que c'est... On en parle beaucoup de la guitare sommaire.
C'était Bobby Lapointe en 1964. Michel Aumont, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes là. Vous aimez aussi Bobby
oui,
Lapointe.
Oui, grand fan de Bobby Lapointe.
Grand fan de Bobby Lapointe. Oui. Et alors, comme nos 3 amis qu'on a entendus précédemment, grand fan de Daddy aussi, que vous avez croisé très
oui,
jeune également.
Oui, oui. Votre moi, j'ai eu la chance de le rencontrer avant qu'il sorte son premier album.
Ah oui, carrément.
Et,
ah oui.
Et donc, c'est lui qui m'a enseigné comme une bonne partie de ce que je devais savoir à l'époque. Et comme je faisais partie de ses bons élèves et que son album a eu un succès immédiat,
le premier de la guitare à Daddy,
ouais,
c'est ça
qui s'appelait la guitare à Daddy, ouais, avec
ça,
une oui. couverture de Mandrika.
Ah, c'était pas Gottlieb.
Gottlieb, je crois, a fait le troisième album. Ouais. Et parce qu'en fait, il avait beaucoup de fans chez les dessinateurs de BD, et donc tout le monde était ravi de. Et puis en plus, c'était une manière de justement de désacraliser un petit peu la guitare et la musique instrumentale. Et donc voilà. Donc j'ai eu la chance de prendre des cours avec lui avant qu'il sorte son premier album, si bien que quand il a commencé à faire beaucoup de concerts. Et comme je faisais partie des bons élèves, j'ai commencé à le remplacer dans ses cours, et en fait c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier.
Et vous avez alors aussi, je parlais tout à l'heure de l'époque où on ne pouvait pas entendre un chanteur sans guitare, vous avez beaucoup travaillé avec tous les chanteurs de la scène française, en tout cas pas mal d'entre eux. Je pense à Maxime Le Forestier, jusqu'à Pierre Barou, à Francis Lalanne, le frère de Jean-Félix, etc. Et à beaucoup
en fait, moi je suis, contrairement à Jean-Félix, je suis pas du tout polyvalent, c'est-à-dire je sais faire que la guitare acoustique et donc quand un chanteur ou quand une production a besoin d'une couleur un peu particulière acoustique, on m'appelle souvent pour ça.
Alors, il faut d'ailleurs préciser peut-être avant que vous alliez jouer maintenant tous les quatre guitares ensemble, les instruments qu'on entend là aujourd'hui sont donc des guitares acoustiques amplifiées.
Alors, non, elles sont pas amplifiées et on a la chance là justement aujourd'hui ce qu'expliquait Jean-Félix tout à l'heure et ce qu'on va encore mieux démontrer tout à l'heure à 17h30 au concert, c'est qu'en fait on est venu essayer les guitares de nos amis luthiers et donc en fait on joue pas sur nos propres guitares, on joue sur les guitares des luthiers qui exposent à Musicora. Donc en l'occurrence moi je joue sur une magnifique guitare faite par Richard Baudry, très grand luthier. Jean-Félix
sur une d'Armagnac.
Voilà. Eric d'Armagnac, aussi un des très grands luthiers. Et cet après-midi au concert, donc à 17h30, on va essayer, je crois qu'en tout, il va y avoir une dizaine ou une douzaine de luthiers.
Alors, j'ai dit amplifié, c'est peut-être pas le bon mot, mais sonorisé, alors.
Ah oui, sonorisé. Sonorisé
avec, un micro, avec voilà. Un micro devant. Mais en fait, on joue vraiment la carte de l'acoustique.
Oui.
C'est-à-dire le but, évidemment, le fait d'avoir un micro devant une guitare, ça permet de
ça permet de passer à la radio aussi.
Déjà, ça permet de retransmettre la réalité acoustique de la guitare et pas, entre guillemets, tricher avec un préampli. Voilà. C'est vraiment la guitare, l'acoustique de la guitare qu'on entend.
Enfin, apparemment, en tout cas, Michel Aumont, vous avez des idées très précises sur la question, puisque j'ai lu, c'est sur Internet, il faut se méfier, mais que vous jouiez exclusivement sur les cordes Elixir String.
Bah parce que c'est celle que je préfère, enfin c'est celle qui... Oui, c'est une marque...
Vous avez chacun vos cordes, comme ça
Moi, je pense que Jean-Félix aussi, mais...
Oui, alors moi, ça dépend des guitares. Il y a des guitares où je mets des Elixir, d'autres où je mets des Martin.
D'accord.
Bon. Pareil pour les Ninon, Savarez, ou des Carlos, etc. Enfin, ça dépend des guitares, en fait.
Eh bien, écoutez, je vais vous proposer alors de rejoindre Éric Gombard et Jean-Marie Ecaille pour un morceau, donc cette fois-ci à quatre guitares, hein, This Can't Be Love, qu'on va entendre maintenant. On est toujours en direct du salon Musicora dans Étonnez-moi Benoît, spécial guitare et accordéon tout à l'heure, avec également Gérard de Cortance qui est à côté de moi, qui va nous parler plutôt des années yéyé, mais ce sont aussi des années avec beaucoup de guitares. Et vous pourrez entendre tous les guitaristes qui sont ici ce matin également. À 18h cet après-midi à l'auditorium Boris Vian. On écoute maintenant This Can't Be Love. This Can't Be Love par Michel Aumont, Jean-Marie Ecaille, Eric Gombard, Jean-Félix Lalanne, où je découvrais qu'on peut aussi utiliser les guitares comme une sorte de caisse claire, là, quand il faut faire la percussion. C'est un très joli morceau. Merci à tous les quatre. On vous retrouve à la fin de l'émission, et puis on vous retrouve aussi, bien sûr, pour ceux qui veulent venir à la Grande Halle de la Villette cet après-midi à 18h pour un concert exceptionnel autour de la guitare.
France Musique, Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre.
Mais il est maintenant le temps de retrouver mes autres invités. Et d'abord, Gérard de Cortance, qui vient de publier le dictionnaire amoureux des 60s, et aussi un roman intitulé « Laisse tomber les filles ».
Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Je dirai c'est bien fait pour toi, je dirai ça t'apprendra, je dirai ça t'apprendra. Un mauvais tour. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, tu le paieras un de ces jours. On ne joue pas impunément avec un cœur innocent, avec un cœur innocent. Tu verras ce que je ressens avant qu'il ne soit longtemps, avant qu'il ne soit longtemps. La chance abandonne celui qui ne sait que laisser les cœurs blessés. Tu n'auras personne pour te consoler, tu ne leur as pas volé. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Non, pour te plaindre il n'y aura personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là.
France Gall en 1964, tiens, comme Bobby Lapointe d'ailleurs tout à l'heure, c'est très différent comme style, comme quoi les années 60, Gérard de Cortance mélange tous les genres, et notamment dans la chanson française. Hein.
Terre de contraste.
Terre de contraste, voilà, puisque vous venez d'écrire un dictionnaire amoureux des années 60, en même temps qu'un roman sur la période yéyé, Laisse tomber les filles. J'imagine que toutes ces réflexions sur la guitare, ça vous plongeait déjà un petit peu dans votre époque.
Oui, mais en fait, la chose principale à laquelle je pensais, c'est que j'ai un grand-père j'avais un grand-père qui était italien.
Oui, ça, je le sais, qui était italien, mais...
Qui était maçon napolitain, oui. Donc oui. Qui est venu en France pour chercher du travail dans les années 20, et qui avait un petit orchestre.
Oui.
Il jouait de la guitare et de la fisharmonica, enfin de l'accordéon. Il a joué pendant toute la guerre, de la musique swing. C'est un peu lui qui m'a
inspiré votre roman sur les azous.
Mais absolument.
Oui.
Et il m'a dit une chose formidable, il m'a dit, tu sais... En fait, avec mon petit orchestre, j'ai joué pratiquement tous les jours, alors que c'était interdit, on se cachait pour jouer de la musique, mais j'ai donné de l'espoir aux Français.
Voilà.
J'ai trouvé ça merveilleux. Il avait un petit orchestre de 4-5 musiciens, et il a joué pendant toute la guerre.
Alors, vous aviez justement, donc, je le disais, écrit un roman sur les azous. Là, vous venez d'écrire un roman sur les yéyés. On pourrait avoir l'impression de loin que c'est un peu la même chose, les azous et les yéyés, à deux époques différentes, mais en réalité, sociologiquement, c'est très très différent. Hein.
Oui, c'est-à-dire que ce qui peut les rapprocher, c'est que ce sont aussi bien les azous que les yéyés, des gens qui se rassemblent parce qu'ils font partie de la même génération.
Voilà, ils ont envie de faire la fête et ils promeuvent une espèce de culture jeune.
Exactement, c'est-à-dire que le mot adolescent qui existe depuis longtemps, en fait, le concept d'adolescent n'arrive que dans les années 60. Oui. Mais les azous, c'est déjà un regroupement d'adolescents. C'est-à-dire qu'ils boivent les mêmes breuvages, ils mangent les mêmes choses, ils s'habillent de la même façon, ils écoutent la même musique.
Oui.
La différence avec les yéyés, c'est que les azous ont les nazis en face et la consommation en moins, puisque la France meurt de faim.
Oui.
tout au moins dans les capitales et à Paris. En revanche, les yéyés n'ont pas les nazis en face.
Il faut dire carrément que c'est même des enfants gâtés.
Ce sont les enfants gâtés, ouais. Ce sont les baby-boomers. Ouais. Et eux peuvent consommer, puisque c'est la première fois qu'une génération a ce qu'on appelle de l'argent de poche. Ouais. La génération précédente, l'argent de poche, ça n'existe pas. Donc très vite, on fait en sorte que cette génération puisse consommer. Donc on va créer une mode vestimentaire, on va créer une musique, on va créer des mensuels, salut les copains, des émissions à la radio, SLC, etc.
Et la musique, elle est très très présente donc dans votre roman, puisque ça commence carrément par un concert à Paris, place de la Nation.
Ah oui, alors c'est un concert absolument fondamental pour cette génération, puisque Philippe Aki, qui veut fêter le premier anniversaire de la revue, c'est les copains, non pas de l'émission radio, mais de la revue, décide d'inviter les jeunes à la Nation. Alors, faut imaginer la place de la Nation. La place est grande, mais n'est pas immense. Il y a une petite scène, une sono qui n'est pas très bonne. Il y a quelques policiers en képline, avec quelques petits bateaux.
Ah oui,
comme
ils sont encore comme ça.
Ils sont pas très méchants. Films, hein, ce sont pas des CRS.
Il y a déjà des casseurs.
Oui, alors attendez, on attend 5000 jeunes gens et jeunes filles, et en réalité, il y en a 150 000 qui déboulent. Ouais. Il y a quelques blousons noirs, ça se termine un petit peu
noirs,
mal. Les blousons noirs, alors.
Attends, on appelle les blocs black.
Oui, mais attendez, les blousons noirs de l'époque, c'est des gens qui ont des blousons de cuir, qui ont une chaîne de vélo, qui écoutent de la musique rock et qui ont des mobilettes qui ne dépassent pas 50 centimètres cubes, dont ils ont retiré le pot d'échappement pour faire un petit peu de bruit. Ils ne sont pas très très dangereux. Mais le lendemain, dans la presse, c'est absolument hallucinant. On explique que des jeunes filles se sont fait violer, que des voitures ont été brûlées, que c'est une bataille rangée. Et il y a même un journaliste que je ne nommerai pas, par respect pour cette profession, qui explique, dans les colonnes du Figaro, qu'en fait, entre un discours d'Hitler au Reichstag et la musique twist, en réalité, c'est exactement la même chose.
Eh ben, carrément.
Donc vous voyez qu'on ne rigole plus du tout.
Alors vous avez sorti la BO de votre roman,
oui,
si on peut dire, avec plein de chansons de l'époque. On va en écouter une tout de suite, c'est « Tu peins ton visage » par un groupe un peu oublié, c'est Les Vautours, mais vous nous en direz un mot.
C'est extraordinaire.
Tout de suite après.
Il faut bien écouter les paroles.
Chérie, oh chérie, comme tu as changé. Du noir, du rouge, du bleu, sur tes joues, tes lèvres, tes yeux. Tu as l'air d'une cannibale, et non pas d'une fille que j'emmène au bal. Tu peins, ton visage, tu peins, ton image, tu confonds l'Afrique et l'Enterre, la route de nos gens et le sentier de la guerre. Pour te prendre un baiser au vol, je mets du rouge blanc en côte. Et au lieu de celle que j'aime, je n'embrasse qu'un masque de poupée de près. Du pain, ton visage, du pain. Quel dommage, c'est d'autant plus impardonnable que tu as 17 ans et la beauté du cadre. Yeah! Ah, ah. En fait, quelques plumes sur la tête. Tu pourrais même y ajouter un peigne autour des reins, un anneau dans les. Du pain, ton visage, du pain. Ton image, tu confonds l'Afrique et l'Enterre, la route de nos gens et le sentier de la guerre. Du pain, ton visage, du pain. Quel dommage, hâte-toi d'heureux. Devenir la fille de la guerre dans ses souvenirs.
Tu peins ton visage par les vautours en 1961. J'étais pas tellement étonné de voir dans le public quelques auditeurs fredonner « Laisse tomber les filles », mais là encore, visiblement, cette chanson n'est pas complètement oubliée, puisque je vois que...
Mais c'est, elle est absolument hallucinante, quand même.
Gérard de Cortance.
D'abord, vous avez remarqué que les accords, la guitare, c'est, tout ça est assez faux. Le chanteur, on n'en parle pas trop.
Vic Lawrence.
Et les paroles sont hallucinantes. C'est-à-dire, en fait, c'est le début de l'émancipation de la femme, hein.
Oui.
C'est les féministes qui commencent à descendre dans la rue pour revendiquer un peu plus de liberté, n'est-ce pas? Bien. Et là, qu'est-ce que dit cette chanson? Au fond, il est en train de dire, bah, tu te maquilles un peu trop, et j'aimerais bien retrouver la petite fille qui ne se maquillait pas, qui ne se maquillait pas, qui ne mettait pas de colandime, qui ne retirait pas son soutien-gorge qu'elle jetait aux orties. Voilà. Et ça recoupe totalement. Comment dire, la chanson de qui donne le titre au roman Laisse tomber les filles, puisque Gainsbourg, qui est connu pour être quelqu'un d'assez misogyne, en fait, écrit une chanson féministe. Lorsqu'on écoute les paroles de Laisse tomber les filles, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. C'est une jeune fille qui dit à son copain, si tu ne changes pas d'attitude avec moi, si tu continues à nous considérer de cette façon-là, on va te laisser tomber.
Ouais, c'est
et je trouve que ça rend vraiment compte de cette époque de transformation extraordinaire, et les femmes sont à la base de ces grandes transformations.
Alors votre roman, on va pas tout expliquer parce qu'il faut qu'on dise un mot aussi de votre dictionnaire, mais oui. ça tourne autour de quatre jeunes gens dont on va suivre d'une certaine façon le parcours depuis le début des années 60 jusqu'à aujourd'hui.
Voilà, c'est-à-dire en fait c'est
deux garçons, deux filles.
C'est trois garçons.
Trois garçons, une
fille. C'est trois garçons, une fille.
C'est Michel, puisqu'ils sont tous amoureux d'elle.
Bah oui, ils sont tous amoureux d'elle. Et en fait, c'est l'évolution de cette génération. C'est un peu, vous savez, ces films italiens, Nous sommes tant aimés, Nos meilleures années, enfin voilà. Et on les suit jusqu'à la manifestation républicaine de janvier 2015, après l'attentat de l'hypercachère et de Charlie Hebdo, où on descend tous dans la rue pour défendre des valeurs qu'on pensait acquises, mais en fait qui sont toujours remises en cause, à savoir nos valeurs, nos modes de vie, la démocratie et la liberté. Voilà. Donc, c'est la question que pose ce roman, c'est-à-dire que s'est-il passé, au fond, en 50 ans, pour qu'on redescende dans la rue, pour défendre des choses qu'on semblait absolument acquises.
Parce que les années 60 sont des années d'optimisme, effectivement, comme vous l'expliquez dans votre dictionnaire amoureux des 60s. Mais alors, les années 60, c'est pas seulement les yéyés, c'est aussi des slow, beaucoup de slow et des chansons sirupeuses, comme celle-ci qui me rappelle, là encore, un 45 tours de famille que j'adorais écouter quand j'étais petit.
Ah, c'est un monument.
Nachts geh ich dahin. Ich bin allein und frag warum. Die Tage gehen mir nicht aus dem Sinn. Und ich frag mich warum. Du gingst fort, wohin? Ich rief dich oft, doch du bliebst stumm. Du fühlst es nicht, wie einsam ich bin. Und ich frag mich, warum? Sag, warum? Zu sein, mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam, bin immer einsam. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?
le slow de Camillo Felgen, qui était en fait luxembourgeois, qui chantait aussi bien le français oui. que l'allemand, et qui a failli remporter le concours de l'Eurovision avec cette chanson de Phil Spector, Gérard de Cortance, que vous aimez beaucoup aussi.
C'est le slow teuton par expérience.
Le slow teuton,
vraiment, dans toute sa splendeur.
Les amis allemands vous pardonneront.
C'était inévitable dans les surprises parties.
Le slow, c'est un morceau des années 60.
C'est un morceau de choix. Et alors, moi, je trouve que c'est, il pose une grande question philosophique, surtout lorsqu'on regarde le Scopitone qui a été fabriqué à partir de cette chanson. On voit ce type qui erre dans Berlin en noir et blanc et qui dit « Warum ?» et « Pourquoi ?» C'est vraiment... j'en ai discuté avec Jean-Luc Marion, académicien, qui est fou de cette chanson et qui m'a dit « C'est grâce à cette chanson que je suis devenu philosophe.
Oui. »
Pourquoi ? C'est une question, c'est la grande question de l'humanité. Pourquoi ?
Pourquoi ?
Voilà, il fallait attendre Camillo pour poser ça.
Dictionnaire amoureux des 60s, donc Gérard de Cortance, vous étiez un tout jeune adolescent dans les années 60.
Oui, j'étais très
jeune. C'est un livre autobiographique, ce dictionnaire ?
Alors, ce qui est merveilleux dans Dictionnaire amoureux des 60s, c'est le mot amoureux.
Oui,
le mot dictionnaire, enfin, on n'en tient pas
mais
beaucoup
compte.
Mais
c'est nourri de souvenirs vécus, là,
oui,
pour le
c'est-à-dire
coup.
Que c'est totalement subjectif, et c'est formidable. L'éditeur vous demande d'écrire un livre entièrement subjectif. Donc vous pouvez mettre dans ces années 60 ce qui vous a concerné dans ces années 60. Alors ça peut être des voitures, ça peut être un événement politique, ça peut être un livre.
Par exemple, vous consacrez tout un article passionnant à la purée mousseline.
Mais oui, parce que c'était une révolution. Quand ma grand-mère, pour la première fois, a posé son saladier avec de la purée mousseline dedans. Mon grand-père, gaulliste historique, férocement anti-américain, lui a dit « Mais enfin, c'est encore un truc des ricains, je ne mangerai jamais cette purée-là.
» Voilà, il y a la purée mousseline, il y a Dîmes.
Les colandines, c'est une révolution.
Ouais.
C'est une révolution. Il faut imaginer les jeunes filles de l'époque... avaient pratiquement encore des gaines comme leur grand-mère, mais surtout avaient des bas et des porte-jartelles.
Oui.
Le col en dîme, c'est une libération totale, et c'est en même temps, on jette aussi, ce que je disais tout à l'heure, le soutien-gorge aux orties, c'est-à-dire les jeunes filles portaient des col en dîme et ne portaient plus de soutien-gorge.
Également les cheveux, évidemment, Antoine les a chantés. Bon, ça, c'est un des thèmes
qu'il fallait absolument avoir.
60, mais ça, oui. Ça méritait un développement.
C'était très nécessaire. Et je me souviens, je raconte cet épisode. J'ai fait toutes mes études chez les jésuites. Et aux Galeries Lafayette, on vendait des perruques des Beatles. Donc, on a décidé un jour d'assister à un cours de mathématiques avec le frère, devant le frère, en soutane. Chacun avait sa perruque. Et pendant tout le cours, le frère n'a absolument rien dit.
Oui, c'est formidable.
J'ai trouvé ça, c'était extraordinaire parce que il avait tout compris. Belphégor, par exemple.
Et puis j'ai noté encore Monsieur Cinéma, bien sûr, à la télévision, le petit conservatoire de la chanson, la piste aux étoiles, ça ce sont tous les rendez-vous de enfance, de notre adolescence, ça dépend de l'âge du lecteur, mais en tout cas, tout ça est très vivant dans votre dictionnaire amoureux des 60s. Quand pense votre grand-père, peut-être avec raison, ces 60s, c'est aussi vraiment, effectivement, l'américanisation forcenée de la France, non ?
Alors, c'est en deux temps, hein.
Oui.
C'est-à-dire que l'américanisation, oui, parce qu'en fait... Il ne faut pas oublier que les Américains, il n'y a pas qu'eux, mais sont en partie les libérateurs de la France.
Oui,
donc
oui,
c'est les Trente Glorieuses et le paradis, ce sont les États-Unis.
Oui.
Mais très très vite, en quelques années, le paradis, ça ne sera plus les États-Unis, puisque ces consommateurs vont se retourner sur quoi ils avaient adoré, c'est-à-dire ils vont brûler le drapeau américain au moment de la guerre du Vietnam, ils vont devenir hippies et ils vont refuser... de consommer.
Voilà, alors, en plus, évidemment, il faut quand même rappeler que, musicalement, c'est largement autant l'Angleterre que l'Amérique, les années 60.
Ah oui, alors, et musicalement, c'est une profusion, c'est extraordinaire. Enfin,
ouais.
Pour moi, la grande musique de variété, en fait, est anglo-américaine,
ouais.
Et c'est celle des années 60.
Ouais.
On n'a jamais dépassé ça.
Voilà, et c'est au cœur de votre livre.
C'est absolument au cœur du livre.
Pour notre plus grand plaisir, on y retrouve Led Zeppelin, que j'adore, on en entendra peut-être un peu tout à l'heure.
Ouais.
Et puis, j'ai choisi pour finir Les Who, I'm Free. Il me semblait que ça résumait assez bien l'esprit de ces années 60.
Absolument, parce qu'on écoute souvent les Beatles, les Stones, mais il y a les Who, il y a les Kings, enfin, qui sont des groupes
très très important pour l'époque, pour nos générations.
Voilà, tout ça c'est dans le dictionnaire amoureux des 60s. Merci à vous, Gérard de Cortance.
Merci de m'avoir invité.
Les Who en 1969, cette fin des années 60, prodigieuse musicalement également. On y reviendra et en tout cas je vous recommande de lire le dictionnaire amoureux des 60s qui vient de paraître chez Plomb, ainsi que le roman Laisse tomber les filles chez Albin Michel, deux livres de Gérard de Cortance.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais je vous l'ai dit, ce salon Musicora, c'est le salon de la guitare et de l'accordéon et du banjo et de la cabrette et de la chanson, parce que maintenant, nous avons rendez-vous avec de la musique à danser, du bal, comme on en faisait à Paris dans les années 1920 avec Sophie Gamblin, Antoine Leclerc, Michel Esbelin et Tiené Simonin à l'accordéon. Ils nous chantent tout de suite, ils nous interprètent tout de suite ensemble Batignolles Clichy, une valse d'époque.
C'était une blondinette aux grands yeux bleus rieurs et jolie comme un cœur. Il la croisait souvent quand elle passait le matin tout près de la nuit de Saint-Ouen. Mais un jour elle lui dit: je vais plaquer mes parents, je vais me donner du bon temps. Je vais profiter de la vie, m'amuser, m'étourdir dans le bonheur et le plaisir. Il lui répondit par un tendre aveu: je t'aime, aimons-nous tous les deux. Si tu voulais mon amour, je t'offrirais pas un royaume. Oui, mais seulement je te donnerais tous les jours du bonheur et de l'amour. À quoi penses-tu, ma belle gosse? Pourquoi veux-tu faire la noce? On est heureux quand on ne fait pas de chichi, à bâtir la Clichy. Ce fut pour commencer un bonheur pas banal, de l'amour idéal. Le printemps fleurissait, on allait à Melon, c'est mes dents, les buissons. Puis le soir, on rapportait, en se tenant par la main de gros bout. Quelle lila, dont le parfum capite un baume et la santé du métropolitain. Mais le soir, quelquefois, l'amour me soupirait, alors son amant lui disait: à quoi penses-tu, mon amour? Tu veux quitter mon royaume? Est-ce qu'avec moi tu n'as pas tous les jours du bonheur et de l'amour? À quoi penses-tu, ma belle gosse? Pourquoi veux-tu faire la noce? On est heureux quand on ne fait pas de chichi, à Batignolles, à Clichy. Mais la petite blondinette un soir se fit en vue par un bel étranger qui l'ameubla richement, lui donna des bijoux, des toilettes d'un prix fou. Pauvre amant d'elle est su rester seul au logis, pense c'est bien fini. Lorsque 6 mois après à sa porte on frappa, sa maîtresse était là. Il lui dit: va-t'en, je ne te connais plus. Elle lui répondit le cœur ému: c'est moi ta petite mon amour, t'avais voulu faire la noce. Mais à présent je te l'ai dit à mon tour, tout ça ne vaut pas l'amour. Ta petite moune d'amour, je suis ici dans mon royaume. Et puis on est heureux quand on ne fait pas de chichi à Batignolles, à Clichy.
Batignolles, Clichy, idylle réaliste chantée par Sophie Gamblin avec les Papillons de Nuit, un groupe que je suis heureux d'accueillir aujourd'hui à Musicora avec Tiennet Simonin qu'on entendait à l'accordéon. Bonjour Tiennet.
Bonjour Benoît.
Alors votre projet avec ce groupe, c'est quoi? C'est de recréer, retrouver la couleur de la musique à danser, comme vous dites, qu'on entendait dans les bals parisiens dans les années 1920.
Oui, c'est de mettre un coup de projecteur sur le répertoire musette des années 20-30, qui était l'âge d'or du musette. Et effectivement, c'est une musique à danser.
Oui,
qui était
vous,
jouée...
vous insistez sur ce terme. Hein, voilà,
oui, oui, bah c'est important voilà. Pour nous. Oui.
Oui. C'est-à-dire que vous la jouez parfois avec des danseurs?
On la joue souvent avec des danseurs, on
oui.
La joue souvent en situation de bal.
Oui. Oui,
absolument.
Et alors donc, quand vous dites la musique musette des années 20-30, c'est en fait avant l'arrivée du swing qui va complètement transformer le musette dans les années 40, on peut dire, ou
voilà.
À la fin des années 30.
Avant l'arrivée du swing, et quoique l'influence swing était un peu là déjà dans les années 20,
oui.
Elle va être de plus en plus forte voilà, au cours des années 30. Après, c'est vrai qu'une caractéristique du musette des années 20-30, c'est que c'était une musique acoustique. Donc on était avant l'arrivée des micros. Et ça, c'est important, je crois, pour essayer de retrouver le son, le phrasé de cette musique.
Voilà.
Donc même quand on joue donc, dans des bals où on est sonorisé, on essaye quand même toujours de
conserver un son, oui, acoustique.
Voilà, acoustique, ouais, voilà. Absolument.
Vous-même, vous venez un peu des musiques traditionnelles, hein. Vous n'êtes pas à l'origine un accordéoniste musette, justement.
Alors, j'ai dans mon parcours d'accordéoniste, quand j'ai pris des cours d'accordéon, j'ai travaillé un répertoire musette, mais sans le côté historique, c'était pas contextualisé en fait. Donc je jouais ces morceaux parce qu'on me les donnait, mais ouais. Voilà, j'avais pas plus d'intérêt pour ça. Moi, dans ma famille, on jouait et j'entendais de la musique traditionnelle, donc c'était pas du tout une musique exotique pour moi, j'étais familier de ça. Donc c'est vrai que j'ai d'abord commencé par la musique irlandaise. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontré avec Antoine Leclerc, qui fait du banjo dans Les Papillons, et puis la musique d'Auvergne aussi, à petit, le musette.
Justement, la musique d'Auvergne, parce que c'est un petit peu inattendu quand on parle de bal parisien, d'entendre une cabrette, et pourtant, elle a tout à fait son sens. Michel Esbelin, vous qui jouez avec votre cabrette, là, merveilleuse, j'oserais dire, pour les gens qui connaissent pas, une cornemuse auvergnate.
C'est exactement ça, oui.
C'est ça.
C'est la cabrette, donc, qui fait partie de la famille des cornemuses, la grande famille des cornemuses qu'on trouve dans toute l'Europe.
Oui.
En fait, quand j'ai rencontré des musiciens, quand j'ai commencé à jouer cet instrument, souvent les anciens, ils disaient la musette.
Oui.
Le nom auvergnat, c'est la cabrette, avec la référence à la peau de chèvre. Mais les anciens, notamment Robert Arriba, qui m'a appris ce morceau, là, celui qu'on vient de jouer, cette valse à Batignolles-Clichy, lui, il parlait toujours des anciens qui jouaient la musette.
Ah oui.
Donc la musette qu'on entendait dans les bals auvergnats, dans les bals musettes.
Alors moi, il faut dire le musette aujourd'hui.
Alors le musette, c'est le genre musical.
Voilà.
Mais à la base, c'était le sac.
Voilà.
Le sac qui correspond à la cornemuse, donc un instrument avec une réserve d'air, une poche d'air.
Et voilà. Qu'on entendait donc à Paris, dans les quartiers populaires, voilà, chez les Bougnats.
Notamment à la Bastille, où il y avait beaucoup de migrants auvergnats. Donc les gens se retrouvaient, c'était le principal loisir de ces gens-là, un milieu très modeste. Donc les gens se retrouvaient pour danser les danses du pays, mais aussi les danses de couple, les danses à la mode.
Alors je vous propose de retourner tous les deux à vos instruments pour nous jouer justement alors un duo accordéon et cabrette, un duo donc de ces deux instruments qu'on pouvait entendre dans les bals populaires de l'époque. Ça s'appelle Maman la Violette et c'est donc toujours Tiennet Simonin à l'accordéon et Michel Esbelin à la cabrette. Thank you. Maman la Violette, un duo accordéon cabaret par Michel Esbelin et Thierry Simonin, le groupe Les Papillons de Nuit que je reçois aujourd'hui à Musicora, et maintenant avec les deux autres membres du groupe, Antoine Leclerc au banjo et Sophie Gamblin qui chante, qu'on a déjà entendu tout à l'heure, on va vous réentendre tout de suite tous les deux. Le banjo, Antoine Leclerc, ça a été vraiment l'instrument rythmique avant la guitare principale du bal parisien au début du XXe siècle. Hein.
Oui, tout à fait, bah, pour des raisons qu'évoquait Thiéné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on jouait acoustique et le banjo, c'est un instrument dont la puissance sonore et dont le timbre permettent d'accompagner un accordéon en acoustique de manière beaucoup plus efficace qu'une guitare.
Et c'est un instrument qui est arrivé d'Amérique, en fait.
Oui, alors c'est un instrument afro-américain au départ, hein, l'idée de tendre des cordes sur une peau, et puis c'est un instrument qui a pris sa forme aux États-Unis et qui a assez vite traversé l'Atlantique au début du siècle. Et c'est un instrument moderne.
Oui, mais même des grands guitaristes, alors vous disiez Django ou d'autres, sont passés par le banjo.
Tout à fait, il y a des enregistrements de Django Reinhardt où il accompagne Jean Vessade au banjo. Alors c'est un banjo à six cordes, c'était avant que Django subisse l'incendie,
son accident.
Son accident. Il y a des enregistrements où il joue donc de la guitare banjo.
Ah, voilà.
Qui était souvent utilisé à l'époque pour accompagner les accordéonistes.
Et alors, il y a plusieurs aussi tailles de banjo. J'ai vu que vous jouez du banjo ténor, par exemple.
Oui, moi je joue le banjo ténor. Alors, il y a différentes sortes de banjo. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais souvent quand on pense au banjo, on pense un peu à l'instrument country, les cowboys, délivrance, etc. Ouais. Ça, c'est le banjo à 5 cordes.
Ouais.
Et moi, je joue le banjo ténor. C'est un banjo à 4 cordes. C'est le même banjo qu'on entend, par exemple, dans les fanfares Nouvelle-Orléans. C'est un instrument de jazz qui date de la fin des années 10 sous sa forme actuelle.
Alors, quand on joue des instruments de musique, évidemment, il y a tout un travail de recherche pour retrouver le style, mais quand on chante, c'est presque plus difficile parce qu'il faut réinventer soi-même le style, Sophie Gamblin, ou alors il faut écouter les chanteuses de l'époque. C'est quoi votre...
Je trouve que l'ambiance se trouve dans la musique.
Dans l'accompagnement, les instruments.
Ces mélodies-là appellent une certaine ambiance, une certaine atmosphère, du coup un certain positionnement, une certaine voix en fait, avec plus de gras et de gouaille.
Mais vous n'êtes pas vraiment des musiques traditionnelles, contrairement aux trois autres, vous êtes passé par le rock, par la chanson au sens plus large, avant de les retrouver dans ce répertoire musette.
Les premières chansons que j'ai dû chanter, en fait, je crois que c'est de la bossa nova, en fait.
Voilà, oui, c'est très loin.
Donc, c'est un peu un grand écart. Mais j'ai adoré découvrir ce répertoire et puis jouer avec eux.
Mais vous faites très bien, en tout cas. Et alors, vous avez des modèles, justement, dans les enregistrements de chanteuses d'avant-guerre?
Oui, bien sûr.
Au contraire de trop essayer de copier.
Alors, pour certaines, elles ont une voix très aiguë, en fait. Donc, je ne suis pas dans le même registre. Même si on a Fréhel et Piaf qui sont plutôt de ce côté-là, mais Mistinguette ou même Arletty sont beaucoup plus hauts. Donc c'est difficile en fait de reprendre leur interprétation. Mais par contre, il y a quelque chose dans le phrasé un peu traînant, qui fait partie de l'époque.
Du style. Alors justement, on va écouter maintenant une Java musette. Un petit mot d'ailleurs, Antoine, parce que cette Java s'appelle Nous deux. Là, j'ai le petit format sous les yeux. Succès de l'orchestre d'Émile Vacher, le grand créateur quasiment du style musette. Chanté et créé au Music Hall par la charmante réaliste Lynn Marsa.
Oui, alors j'ai essayé de m'enseigner sur cette chanteuse dont on n'a pas d'enregistrement, Lynn Marsa. Et en fait, c'était le nom de scène de Annetta Maillard, qui est la maman
d'Edith Piaf. Voilà, et c'est cette chanson qu'on va entendre maintenant avec vous-même au banjo, Antoine Leclerc, Thierry Simonin à l'accordéon, et une Java chantée donc par Sophie Gamblin. On est toujours à Musicora avec le groupe Les Papillons de Nuit.
C'est dans un bal musette de la rue des Vertus que l'on s'est connus. C'est au son de l'accordéon qu'on se t'explique et c'est pas compliqué. Au premier mot qu'on s'est dit, ça n'a pas loupé, nous étions chippés. Et depuis ce jour-là, je vous jure que ça va, d'autant plus qu'on ne s'en fait pas. Nous à deux, c'est pas qu'on en est pour des trucs langoureux, ça va. Quand ensemble on se met à guincher la java, c'est fou. Comment qu'on se balance, on en met un coup sans en avoir l'air, on fait voir qu'on a du nerf. Nous deux, on n'est pas des os, mais on fait tout ce qu'on peut chez nous. Pas de vilaine manière et pas de chiquer du tout, on sait bien marquer la cadence. C'est l'accord parfait à ce qu'on est heureux quand on est nous deux. C'est question d'habitude quand on a le gosier sec, on se rince le bec. À deux, on se tape en douce quelques chopines de gris, ce qui fait qu'on est gris. À la gens qui rouspète, on se dit pas de chichi, sommes des affranchis. Vous êtes intelligents, soyez pas méchants, en faites pas monsieur l'agent. Nous à deux, c'est pas qu'on en est pour des trucs langoureux, ça va. Quand ensemble on se met à guincher la java, c'est fou. Comment qu'on se balance, on en met un coup sans en avoir l'air, on fait voir qu'on a du nerf. Nous à deux, on n'est pas des as, mais on fait tout ce qu'on peut chez nous. Pas de vilaine manière et pas de chiquer du tout, on sait bien marquer la cadence. C'est l'accord parfait à ce qu'on est heureux quand on est nous deux. Surtout n'allez pas croire que nous ne pensons qu'à danser la java. À d'autres petites choses nous pensons quelquefois vu qu'on n'est pas de bois. Vous comprendrez pourquoi je ne peux pas ici vous faire un croquis. Mais sachez pourtant que de temps en temps on s'amuse tout autrement. Nous deux, c'est pas qu'on en est pour des trucs langoureux, ça va. Quand ensemble on se met à guincher la java, c'est fou. Comment qu'on se balance, on en met un coup sans en avoir l'air, on fait voir qu'on a du nerf. Nous à deux, on n'est pas des as, mais on fait tout ce qu'on peut chez nous. Pas de vilaine manière et pas de chiquer du tout, on sait bien marquer la cadence. C'est l'accord parfait à ce qu'on est heureux quand on est nous deux.
Nous deux, chantés par les Papillons de Nuit et joués par les Papillons de Nuit, ici donc à Musicora, où j'étais très heureux de recevoir ce groupe dont on peut trouver toutes les références, notamment sur Facebook. Il y a une page Facebook, hein, Papillon voilà. Musette.
Papillon Musette, oui, on est sur Facebook.
Voilà, donc Thierry Simonin, je crois que c'est le meilleur moyen de suivre votre actualité.
Absolument.
Les dates, etc. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et puis je signale aussi que Michel Esbelin, qui jouait de la cabrette, est un vrai passionné d'enregistrements anciens. Il est venu avec quelques disques, et notamment un disque Souvenir d'Auvergne, avec des enregistrements d'époque que vous avez rassemblés chez Marianne Mélodie. Hein.
Oui, des disques 78 tours des années 30 et 40.
Voilà, et merci encore donc au Papillon de Nuit. Dans quelques instants, on va retrouver nos quatre guitaristes pour finir cette émission. Et tenez-moi Benoît, en direct du salon Musicora.
France Musique, étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre.
Mais le temps de changer de plateau, et puisque moi j'adore aussi la guitare, je vais rendre hommage, tiens, à la fois aux années 60, au livre de Gérard Cortance et à un très grand guitariste, monsieur Jimmy Page, en 1969.
I'm gonna give you my love.
Voilà le genre de choses que je m'y mets avec une guitare imaginaire quand j'étais adolescent. Jimmy Page dans Led Zeppelin 2. Wow, Lotta Love. Mais nous sommes à nouveau avec nos quatre merveilleux guitaristes, Jean-Félix Lalanne, Éric Gombard, Jean-Marie Ecaille et Michel Aumont. Et c'est d'ailleurs Michel Aumont qui a composé le morceau avec lequel on va terminer, Mr. Pickin'. Merci, merci beaucoup pour Mr. Pékin, à Jean-Félix Lalanne, Éric Gombard, Jean-Marie Ecaille, Michel Aumont. Vous les retrouvez tous aujourd'hui à 18h ici à l'auditorium Boris Vian, puisqu'on est dans le cadre du salon Musicora à la Grande Halle de la Villette à Paris. Voilà, ainsi s'achève avec beaucoup de plaisir musical l'émission spéciale en public de ce matin. Étonnez-moi Benoît, comme chaque semaine préparé par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Christian Lahonde, Benjamin Perru, Romain Lenoir, Sébastien Huel, chargé de production Franck Malabry, réalisation Swad Boukorsa. Et la semaine prochaine, j'aurai le grand plaisir d'accueillir monsieur Fred Mella et les nouveaux compagnons de la chanson. Voilà, bon week-end à tous.
À réécouter sur francemusique.fr.